Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Ensemble, à nouveau, dans nos lectures en liberté, pour la suite du roman de Georges Perec, Les choses. La tradition, au sens le plus misérable du terme peut-être, leur manquait. L'évidence, la jouissance vraie, implicite et immanente, celle qui s'accompagne d'un bonheur du corps, alors que leur plaisir était cérébral. Trop souvent, ils n'aimaient dans ce qu'ils appelaient le luxe que l'argent qu'il y avait derrière. Ils succombaient au signe de la richesse. Ils aimaient la richesse avant d'aimer la vie. Leur première sortie hors du monde étudiantin, leurs premières incursions dans cet univers des magasins de luxe qui n'allait plus tarder à devenir leur terre promise, furent, de ce point de vue, particulièrement révélatrices. Leur goût encore ambigu, leurs scrupules trop tatillons, leur manque d'expérience, leur respect un peu borné de ce qu'ils croyaient être les normes du vrai bon goût, leur valurent quelques fausses notes, quelques humiliations. Il put sembler un moment que le modèle vestimentaire sur lequel s'alignaient Jérôme et ses amis était non pas le gentleman anglais, mais la très continentale caricature qu'en offre un émigré de fraîche date aux appointements modestes. Et le jour où Jérôme acheta ses premières chaussures britanniques, il prit soin, après les avoir longuement frottées par petites applications concentriques délicatement appuyées avec un chiffon de laine légèrement enduit d'un cirage de qualité supérieure, de les exposer au soleil où elles étaient censées acquérir au plus vite une patine exceptionnelle. C'était, hélas, avec une paire de mocassins à forte tige et à semelle de crêpe qu'il se refusait obstinément à porter sa seule paire de chaussures. Il en abusa, les traîna dans des chemins défoncés et les détruisit en un peu moins de 7 mois. Puis, l'âge aidant, à la faveur des expériences accumulées, il apparut qu'ils prenaient un peu de champ à l'égard de leurs ferveurs les plus exacerbées. Ils surent attendre et s'habituer. Leur goût se forma lentement, plus sûr, plus pondéré. Leurs désirs eurent le temps de mûrir. Leur convoitise devint moins hargneuse. Lorsque, se promenant aux abords de Paris, ils s'arrêtaient chez les antiquaires de village, ils ne se précipitaient plus vers les assiettes de faïence, vers les chaises d'église, vers les bonbonnes de verre soufflé, vers les chandeliers de cuivre. Certes, il y avait encore, dans l'image un peu statique, qu'il se faisait de la maison modèle, du confort parfait, de la vie heureuse, beaucoup de naïveté, beaucoup de complaisance. Ils aimaient avec force ces objets que le seul goût du jour disait beaux. Ces fausses images d'Épinal, ces gravures à l'anglaise, ces agates, ces verres filés, ces pacotilles néo-barbares, ces bricoles parascientifiques qu'en un rien de temps il retrouvait à toutes les devantures de la rue Jacob, de la rue Visconti. Il rêvait encore de les posséder. Ils auraient assouvi ce besoin immédiat évident d'être à la page, de passer pour connaisseur. Mais cette outrance mimétique avait de moins en moins d'importance. Et il leur était agréable de penser que l'image qu'ils se faisaient de la vie s'était lentement débarrassée de tout ce qu'elle pouvait avoir d'agressif, de clinquant, de puéril parfois. Ils avaient brûlé ce qu'ils avaient adoré, les miroirs de sorcières, les billots, les stupides petits mobiles, les radiomètres, les cailloutis multicolores, les panneaux de jute agrémentés de paraffes à la Mathieu. Il leur semblait qu'ils maîtrisaient de plus en plus leurs désirs. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient des idées claires. Ils savaient ce que serait leur bonheur, leur liberté. Et pourtant, ils se trompaient. Ils étaient en train de se perdre. Déjà, ils commençaient à se sentir entraînés le long d'un chemin dont ils ne connaissaient ni les détours ni l'aboutissement. Il leur arrivait d'avoir peur. Mais le plus souvent, ils n'étaient qu'impatients. Ils se sentaient prêts. Ils étaient disponibles. Ils attendaient de vivre. Ils attendaient l'argent. Jérôme avait 24 ans, Sylvie en avait 22. Ils étaient tous deux psychosociologues. Ce travail, qui n'était pas exactement un métier ni même une profession, consistait à interviewer des gens selon diverses techniques sur des sujets variés. C'était un travail difficile, qui exigeait pour le moins une forte concentration nerveuse, mais ils ne manquaient pas d'intérêt, étaient relativement bien payés et leur laissaient un temps libre appréciable. Comme presque tous leurs collègues, Jérôme et Sylvie étaient devenus psychosociologues par nécessité, non par choix. Nul ne sait d'ailleurs où les aurait mené le libre développement d'inclinations tout à fait indolentes. L'histoire, là encore, avait choisi pour eux. Ils auraient aimé, certes, comme tout le monde, se consacrer à quelque chose. Sentir en eux un besoin puissant, qu'ils auraient appelé vocation, une ambition qui les aurait soulevés, une passion qui les aurait comblés. Hélas, ils ne s'en connaissaient qu'une, celle du mieux vivre, et elle les épuisait. Étudiant, la perspective d'une pauvre licence, d'un poste à Nogent-sur-Seine et à Château-Thierry ou à Étampes, et d'un salaire petit, les épouvanta au point qu'à peine se furent-ils rencontrés, Jérôme avait alors 21 ans et Sylvie 19, ils abandonnèrent sans presque avoir besoin de se concerter des études qu'ils n'avaient jamais vraiment commencées. Le désir de savoir ne les dévorait pas. Beaucoup plus humblement et sans se dissimuler qu'ils avaient sans doute tort et que tôt ou tard viendrait le jour où ils le regretteraient, ils ressentaient le besoin d'une chambre un peu plus grande, d'eau courante, d'une douche, de repas plus variés ou simplement plus copieux que ceux des restaurants universitaires, d'une voiture peut-être, de disques, de vacances, de vêtements. Depuis plusieurs années déjà, les études de motivation avaient fait leur apparition en France. Cette année-là, elles étaient encore en pleine expansion. De nouvelles agences se créaient chaque mois à partir de rien, ou presque. On y trouvait facilement du travail. Il s'agissait la plupart du temps d'aller dans les jardins publics à la sortie des écoles ou dans les HLM de banlieue, demander à des mères de famille si elles avaient remarqué quelques publicités récentes et ce qu'elles en pensaient. Ces sondages express appelés « testing » ou « enquête minute » étaient payés 100 francs. C'était peu, mais c'était mieux que le babysitting, que les gardes de nuit, que la planche, que tous les emplois dérisoires, distribution de prospectus, écriture, minutage d'émissions publicitaires, vente à la sauvette, loupen tapira, traditionnellement réservés aux étudiants. Et puis la jeunesse même des agences, leur stade presque artisanal, la nouveauté des méthodes, la pénurie encore totale d'éléments qualifiés pouvaient laisser entrevoir l'espoir de promotion rapide, d'ascension vertigineuse. Ce n'était pas un mauvais calcul. Ils passèrent quelques mois à administrer des questionnaires. Puis il se trouva un directeur d'agence qui, pressé par le temps, leur fit confiance. Ils partirent en province, un magnétophone sous le bras. Quelques-uns de leurs compagnons de route, à peine leurs aînés, les initièrent aux techniques, à vrai dire moins difficiles que ce que l'on suppose généralement des interviews ouvertes et fermées. Ils apprirent à faire parler les autres. et à mesurer leurs propres paroles. Ils surent déceler sous les hésitations embrouillées, sous les silences confus, sous les allusions timides, les chemins qu'il fallait explorer. Ils percèrent les secrets de ce universel, véritable intonation magique par lequel l'intervieweur ponctue le discours de son interviewé, le met en confiance, le comprend, l'encourage, l'interroge, le menace même parfois. Leurs résultats furent honorables. Ils continuèrent sur leur lancée. Ils ramassèrent un peu partout des bribes de sociologie, de psychologie, de statistiques. Ils assimilèrent le vocabulaire et les signes, les trucs qui faisaient bien, une certaine manière pour Sylvie de mettre ou d'enlever ses lunettes, une certaine manière de prendre des notes, de feuilleter un rapport, une certaine manière de parler, d'intercaler dans leur conversation avec les patrons sur un ton à peine interrogateur d'élocution du genre « N'est-ce pas ? Je pense peut-être, dans une certaine mesure, et c'est une question que je pose. » Une certaine manière de citer au moment opportun Wright Mills, William White, ou mieux encore, Lazarfield, Cantrill ou Herbert Heimann, dont ils n'avaient pas lu 3 pages. Ils montrèrent pour ces acquisitions strictement nécessaires qui étaient l'ABC du métier d'excellentes dispositions, et un an à peine après leur premier contact avec les études de motivation, on leur confia la lourde responsabilité d'une analyse de contenu. C'était immédiatement au-dessous de la direction générale d'une étude, obligatoirement réservée à un cadre sédentaire, le poste le plus élevé, donc le plus cher et partant le plus noble de toute la hiérarchie. Au cours des années qui suivirent, ils ne descendirent plus guère de ces hauteurs. Et pendant 4 ans, peut-être plus, ils explorèrent, interviewèrent, analysèrent. Pourquoi les aspirateurs traîneaux se vendent-ils si mal ? Que pense-t-on, dans les milieux de modeste extraction, de la chicorée ? Aime-t-on la purée toute faite et pourquoi ? Parce qu'elle est légère ? Parce qu'elle est onctueuse ? Parce qu'elle est si facile à faire, un geste et hop ? Trouve-t-on vraiment que les voitures d'enfants sont chères ? N'est-on pas toujours prêt à faire un sacrifice pour le confort des petits ? Comment votera la française ? Aime-t-on le fromage en tube ? Est-on pour ou contre les transports en commun ? À quoi fait-on d'abord attention en mangeant un yaourt ? À la couleur, à la consistance, au goût, au parfum naturel ? Lisez-vous, beaucoup, un peu, pas du tout. Allez-vous au restaurant ? Aimeriez-vous, madame, donner en location votre chambre à un noir ? Que pense-t-on franchement de la retraite des vieux ? Que pense la jeunesse ? Que pensent les cadres ? Que pense la femme de 30 ans ? Que pensez-vous des vacances ? Où passez-vous vos vacances ? Aimez-vous les plats surgelés ? Combien pensez-vous que ça coûte un briquet comme ça ? Quelle qualité demanderez-vous à votre matelas ? Pouvez-vous me décrire un homme qui aime les pâtes ? Que pensez-vous de votre machine à laver ? Est-ce que vous en êtes satisfaite ? Est-ce qu'elle ne mousse pas trop ? Est-ce qu'elle lave bien ? Est-ce qu'elle déchire le linge ? Est-ce qu'elle sèche le linge ? Est-ce que vous préfériez une machine à laver qui sécherait votre linge aussi ? Et la sécurité à la mine, est-elle bien faite ou pas assez, selon vous ? Faire parler le sujet. Demandez-lui de raconter des exemples personnels, des choses qu'il a vues. Est-ce qu'il a été déjà blessé lui-même ? Comment ça s'est passé ? Et son fils ? Est-ce qu'il sera mineur comme son père ? Ou bien quoi ?
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon ? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, pour un oui, pour un non.
on n'est pas que dans les chansons. Poupée de cire, poupée de son. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les choses, Georges Perec. Il y eut la lessive, le linge qui sèche, le repassage, le gaz, l'électricité, le téléphone, les enfants, les vêtements et les sous-vêtements, la moutarde, les soupes en sachet, les soupes en boîte, les cheveux, comment les laver, comment les teindre, comment les faire tenir, comment les faire briller, les étudiantes, les ongles, les sirops pour la toux, les machines à écrire, les engrais, les tracteurs, les loisirs, les cadeaux, la papeterie, le blanc, la politique, les autoroutes, les boissons alcoolisées, les eaux minérales, les fromages et les conserves, les lampes et les rideaux, les assurances, le jardinage. Rien de ce qui était humain ne leur fut étranger. Pour la première fois, ils gagnèrent quelque argent. Leur travail ne leur plaisait pas. Aurait-il pu leur plaire ? Ils ne les ennuyaient pas trop non plus. Ils avaient l'impression de beaucoup y apprendre. D'année en année, il les transforma. Ce furent les grandes heures de leur conquête. Ils n'avaient rien. Ils découvraient les richesses du monde. Ils avaient longtemps été parfaitement anonymes. Ils étaient vêtus comme des étudiants, c'est-à-dire mal. Sylvie d'une unique jupe, de chandail laid, d'un pantalon de velours, d'un duffel coat. Jérôme d'une canadienne crasseuse, d'un complet de confection, d'une cravate lamentable. Ils se plongèrent avec ravissement dans la mode anglaise. Ils découvrirent les lainages, les chemisiers de soie, les chemises de Doucet, les cravates en voile, les carrés de soie, le tweed, le lamb-wool, le cachemire, le cuir et le jersey, le lin. La magistrale hiérarchie des chaussures, enfin, qui, même des Church au Weston, des Weston au Bunting et des Bunting au Lobe. Leur rêve fut un voyage à Londres. Ils auraient partagé leur temps entre la National Gallery, Savile Row et certains pubs de Church Street dont Jérôme avait gardé le souvenir ému. Mais ils n'étaient pas encore assez riches pour s'y habiller de pied en cap. À Paris, avec le premier argent qu'à la sueur de leur front allègrement ils gagnèrent, Sylvie fit l'emplette d'un corsage en soie tricoté de chez Cornwell, d'un twin set importé en lambe wool, d'une jupe droite et stricte, de chaussures en cuir tressées d'une souplesse extrême et d'un grand carré de soie décoré de pans et de feuillages. Jérôme, bien qu'il aimât encore à l'occasion traîner en savate, mal rasé, vêtu d'une vieille chemise sans col et d'un pantalon de toile, découvrit, soignant les contrastes, les plaisirs des longues matinées, se baigner, se raser de près, s'asperger d'eau de toilette enfilée, la peau encore légèrement humide, des chemises impeccablement blanches, nouer des cravates de laine ou de soie. Il en acheta 3 chez Old England, et aussi une veste en tweed, des chemises en solde et des chaussures, dont il pensait n'avoir pas à rougir. Puis, ce fut presque une des grandes dates de leur vie, ils découvrirent le marché aux puces. Des chemises Harrow ou Van Hunsen, admirables, à long col boutonnant, alors introuvables à Paris, mais que les comédies américaines commençaient à populariser. Du moins parmi cette frange restreinte qui trouve son bonheur dans les comédies américaines. S'y étalaient en pagaille à côté de trench coats réputés indestructibles, de jupes, de chemisiers, de robes de soie, de vestes de peau, de mocassins de cuir souple. Ils y allèrent chaque quinzaine, le samedi matin, pendant un an ou plus, fouiller dans les caisses, dans les étals, dans les amas, dans les cartons, dans les parapluies renversés, au milieu d'une cohue de teenagers à rouflaquettes, d'Algériens vendeurs de montres, de touristes américains s'y sortis des yeux de verre, des 8 reflets et des chevaux de bois du marché Vernaison, erraient un peu effarés dans le marché Malik, contemplant à côté des vieux clous, des matelas, des carcasses de machines, des pièces détachées, l'étrange destin des surplus fatigués de leurs plus prestigieux shirt makers. Et il ramenait des vêtements de toutes sortes enveloppés dans du papier journal, des bibelots, des parapluies, des vieux pots, des sacoches, des disques. Il changeait. Il devenait autre. Ce n'était pas tellement le besoin, d'ailleurs réel, de se différencier de ceux qu'ils avaient à charge d'interviewer, de les impressionner sans les éblouir. Ni non plus parce qu'ils rencontraient beaucoup de gens. Parce qu'ils sortaient, pour toujours, leur semblait-il, des milieux qui avaient été les leurs. Mais l'argent, une telle remarque est forcément banale, suscitait des besoins nouveaux. Ils auraient été surpris de constater, s'ils y avaient un instant réfléchi, mais ces années-là, ils ne réfléchirent point, à quel point s'était transformée la vision qu'ils avaient de leur propre corps. Et au-delà de tout ce qui les concernait, de tout ce qui leur importait, de tout ce qui était en train de devenir leur monde. Tout était nouveau. Leur sensibilité, leur goût, leur place, tout les portait vers des choses qu'ils avaient toujours ignorées. Ils faisaient attention à la manière dont les autres étaient habillés. Ils remarquaient aux devantures les meubles, les bibelots, les cravates. Ils rêvaient devant les annonces des agents immobiliers. Il leur semblait comprendre des choses dont ils ne s'étaient jamais occupés. Il leur était devenu important qu'un quartier, qu'une rue soit triste ou gaie, silencieuse ou bruyante, déserte ou animée. Rien, jamais, ne les avait préparés à ces préoccupations nouvelles. Ils les découvraient avec candeur, avec enthousiasme, s'émerveillant de leur longue ignorance. Ils ne s'étonnaient pas, ou presque pas, d'y penser, presque sans cesse. Les chemins qu'ils suivaient, les valeurs auxquelles ils s'ouvraient, leurs perspectives, leurs désirs, leurs ambitions, tout cela, il est vrai, leur semblait parfois désespérément vide. Ils ne connaissaient rien qui ne fût fragile ou confus. C'était pourtant leur vie. C'était la source d'exaltations inconnues, plus que grisantes. C'était quelque chose d'immensément et d'intensément ouvert. Ils se disaient parfois que la vie qu'ils mèneraient aurait le charme, la souplesse, la fantaisie des comédies américaines, des génériques de soul basse, et des images merveilleuses, lumineuses, de champs de neige immaculés, striés de traces de ski, de mer bleue, de soleil, de vertes collines, de feux pétillants dans des cheminées de pierre, d'autoroutes audacieuses, de pullmans, de palaces, les effleuraient comme autant de promesses. Ils abandonnèrent leurs chambres et les restaurants universitaires. ils trouvèrent à louer au numéro 7 de la rue de Quatre Fages, en face de la mosquée tout près du Jardin des Plantes, un petit appartement de 2 pièces qui donnait sur un joli jardin. Ils eurent envie de moquettes, de tables, de fauteuils, de divans. Ils firent, cette année-là, dans Paris, d'interminables promenades. Ils s'arrêtèrent devant chaque antiquaire. Ils visitèrent les grands magasins des heures entières, émerveillés et déjà effrayés, mais sans encore oser se le dire, sans encore oser regarder en face cette espèce d'acharnement minable qui allait devenir leur destin, leur raison d'être, leur mot d'ordre. Émerveillés et presque submergés déjà par l'ampleur de leurs besoins, par la richesse étalée, par l'abondance offerte. Ils découvrirent les petits restaurants des Gobelins, des Ternes, de Saint-Sulpice, les bars déserts, où l'on prend plaisir à chuchoter, les week-ends hors de Paris, les grandes promenades en forêt à l'automne, à Rambouillet, à Vaux, à Compiègne, les joies presque parfaites, partout offertes à l'œil, à l'oreille et au palais. Et c'est ainsi que, petit à petit, s'insérant dans la réalité d'une façon un peu plus profonde que par le passé, où, fils de petit bourgeois sans envergure, puis étudiant amorphe et indifférencié, il n'avait eu du monde qu'une vision étriquée et superficielle. Ils commencèrent à comprendre ce qu'était un honnête homme. Cette ultime révélation, qui n'en fut d'ailleurs pas une, au sens strict du terme, mais l'aboutissement d'une lente maturation sociale et psychologique dont ils auraient été bien en peine de décrire les états successifs, couronna leur métamorphose. Avec leurs amis, la vie souvent était un tourbillon. Ils étaient toute une bande, une fine équipe, ils se connaissaient bien. Ils avaient, déteignant les uns sur les autres, des habitudes communes, des goûts, des souvenirs communs. Ils avaient leur vocabulaire, leurs signes, leur dada. Trop évolués pour se ressembler parfaitement, mais sans doute pas encore assez pour ne pas s'imiter plus ou moins consciemment, ils passaient une grande partie de leur vie en échange. Ils s'en irritaient souvent. Ils s'en amusaient plus souvent encore. Ils appartenaient presque tous au milieu de la publicité. Certains pourtant continuaient ou s'efforçaient de continuer de vagues études. Ils s'étaient rencontrés la plupart du temps dans les bureaux tape à l'œil ou pseudo-fonctionnels des directeurs d'agence. Ils écoutaient ensemble, en crayonnant agressivement sur leur buvard, leurs recommandations mesquines et leurs plaisanteries sinistres. Leur mépris commun de ces nantis, de ces profiteurs, de ces marchands de soupe était parfois leur premier terrain d'entente. Mais le plus souvent, ils se sentaient d'abord condamnés à vivre 5 ou 6 jours ensemble dans les hôtels tristes des petites villes. À chaque repas pris en commun, ils invitaient l'amitié à s'asseoir, mais les déjeuners étaient hâtifs et professionnels, les dîners effroyablement lents. À moins que ne jaillisse cette miraculeuse étincelle qui illuminait leur mine contristée de VRP et leur faisait trouver mémorable cette soirée provinciale et succulente une terrine quelconque qu'un hôtelier scélérat leur comptait en supplément. Alors ils oubliaient leur magnétophone et ils abandonnaient leur ton trop polissé de psychologue distingué. Ils s'attardaient à table. Ils parlaient d'eux-mêmes et du monde, de tout et de rien, de leurs goûts, de leurs ambitions. Ils allaient courir la ville à la recherche du seul bar confortable qu'elle se devait de posséder, et jusqu'à une heure avancée de la nuit, devant des whisky, des fines ou des gin toniques, ils évoquaient avec un abandon presque rituel leurs amours, leurs désirs, leurs voyages, leurs refus, leurs enthousiasmes. Sans s'étonner, mais s'enchantant presque, au contraire, de la ressemblance de leur histoire et de l'identité de leur point de vue. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Georges Perec, Les choses, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.